Chapitre 54. Silvio Benavides lève les yeux vers la tour du moulin qui défile à toute vitesse sur sa droite.
Tiens, glisse Silvio entre deux bâillements. Je suis passé au moulin. Vous savez, patron, vous m'aviez dit de ne négliger aucun témoin, surtout les voisins.
Et alors?
C'est étrange. Le moulin est comme désert, abandonné si vous préférez.
T'en es certain?
Le jardin semble entretenu, la façade aussi. Plusieurs fois, lorsqu'on était sur la scène de crime à côté du ruisseau, j'ai cru voir du mouvement dans le moulin, surtout en haut, au dernier étage de la tour. Un rideau qui bouge à la fenêtre, quelque chose comme ça.
Moi aussi, patron. J'ai eu la même impression.
Moi aussi. Pourtant, personne ne m'a répondu. Et les voisins m'affirment que plus personne n'habite les lieux depuis des mois.
Bizarre. Tu ne vas pas me refaire le coup d'une omerta villageoise, d'un mensonge complice de tous les habitants, comme pour cette histoire de gosse de 11 ans.
Non. Silvio hésite un instant. Pour tout vous dire, les habitants surnomment ce lieu le moulin de la sorcière.
Serenac sourit en regardant le reflet de la tour disparaître dans son rétroviseur.
En l'occurrence, ce serait plutôt celui d'un fantôme, non?
Allez, laisse tomber, Silvio. Pour l'instant, on a d'autres urgences.
Serenac accélère encore. Les jardins de Monet défilent sur leur gauche en une demi-seconde. Jamais un passager n'aura eu une vue aussi impressionniste du jardin.
Tiens, ajoute Lorenz, en parlant d'Omerta villageoise, sais-tu ce que Stéphanie Dupin m'a raconté hier à propos de la maison de Monet et des ateliers?
Non,
qu'en cherchant un peu, on y trouverait à peine caché des dizaines de toiles de maître. Renoir, Sisley, Pissarro. Et, bien entendu, des nymphéas inédits de Monet.
Vous les avez vus?
Un pastel de Renoir, peut-être.
Elle s'est foutue de vous, patron.
Bien entendu. Mais pourquoi m'avoir raconté une telle histoire?
Elle a même ajouté que c'était une sorte de secret de Polichinelle à Giverny.
Silvio repense fugitivement à l'entretien qu'il a eu avec Achille Guillotin à propos des toiles perdues de Monet. Une toile perdue et qui aurait été retrouvée par un inconnu, pourquoi pas, comme ces fameux nymphéas noirs. Mais des dizaines.
Elle joue avec vous, patron. Elle vous mène en bateau, je vous l'ai dit depuis le début. Et j'ai l'impression qu'elle n'est pas la seule dans ce village.
Serenac ne relève pas et se concentre à nouveau sur la route, sans décélérer. Silvio penche son visage livide à la fenêtre ouverte. Ses narines tentent d'aspirer des bribes d'air frais.
« Ça va, Silvio ?» s'inquiète Serenac.
« Limite. J'ai dû m'enfiler une dizaine de cafés cette nuit pour tenir. Ce matin, cela dit, les toubibs ont décidé de garder Béatrice jusqu'au bout.
Je croyais que tu ne buvais que du thé, sans sucre.
Moi aussi, je croyais.
Qu'est-ce que tu fous ici, alors, si ta femme est à la maternité ?»
Il m'appelle s'il y a du nouveau. Le gynéco doit passer. Le bébé est toujours au chaud dans son cocon, peinard. Ça peut encore durer des jours, d'après eux.
Et du coup, t'as encore passé ta nuit sur l'affaire.
Gagné. Faut bien que je m'occupe, non? Béatrice, elle a ronflé comme un loir dans sa chambre tout le reste de la nuit.
Serenac braque en épingle à cheveux en direction des hauteurs de Giverny. Rue Blanche Hoche des Monnaies. Silvio jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Les deux véhicules de police suivent derrière. Maury et Louvel s'accrochent. Silvio retient in extremis un haut-le-cœur.
T'en fais pas, continue Serenac. L'affaire Morval sera pliée dans moins de 30 minutes maintenant. Tu pourras installer un lit de camp à l'hôpital, jour et nuit. Les experts en graphologie ont été clairs. Ce putain de message gravé dans la boîte de peinture, elle est à moi, ici, maintenant et pour toujours, correspond à l'écriture de Jacques Dupin. Reconnais que j'avais raison, Silvio. C'était signé.
Silvio happe par de longues respirations l'air extérieur. La route Hoche des Monnaies serpente en grimpant le long du coteau et Serenac roule toujours comme un fou. Benavides se demande s'il va pouvoir tenir toute la montée. Il s'impose une longue apnée, puis rentre la tête dans l'habitacle.
Deux experts sur trois seulement, patron. Et leurs conclusions sont plus que nuancées. D'après eux, il y a certes des similitudes entre les mots gravés dans le bois et l'écriture de Dupin, mais aussi pas mal de critères divergents. J'ai plutôt l'impression que les experts n'y comprennent rien. Les doigts de Serenac tapotent le volant avec nervosité.
Écoute, Silvio, je sais lire comme toi les rapports. Il y a similitude avec l'écriture de Dupin. C'est l'analyse des experts, non? Pour le reste, les divergences, je pense tout simplement que graver dans du bois avec une lame, ce n'est pas tout à fait comme signer un chèque. Tout s'enchaîne, Silvio. Ne va pas te compliquer la vie. Dupin est un jaloux fou furieux. Primo, il menace Morval par le message de la carte postale, le texte d'Aragon, l'extrait du poème Nymphée. Le crime de rêver, je consens qu'on l'instaure. Deuxio, il réitère ses menaces par le message de la boîte de peinture. Tertio, il bute le rival.
La route Hochedemonet se réduit maintenant à un ruban de 2 mètres de bitume qui continue de tourner avant de rejoindre le plateau du Vexin. Silvio hésite une nouvelle fois à contredire Serenac, à préciser que face aux incohérences de l'expertise graphologique, Pélissier, le spécialiste du palais de justice de Rouen, évoque la possibilité d'une tentative maladroite d'imitation. Un court virage à gauche. Serenac, qui roulait au milieu de la route, évite de peu un tracteur qui descend en sens inverse. Le fermier tétanisé braque en catastrophe vers le fossé. Il fait bien. Il regarde, incrédule, 2 autres bolides bleus lui couper la priorité.
Nom de Dieu !
Hurle Silvio en louchant dans le rétro. Il prend une longue inspiration, puis se retourne vers Lorraine Serenac.
Mais, patron, que vient faire la boîte de peinture dans toute cette histoire ? D'après les analyses, cette boîte de peinture aurait au moins 80 ans. Une pièce de collection.
Une Winsor & Newton, la marque la plus connue dans le monde, visiblement, qui fournit les peintres depuis plus de 150 ans.
À qui pouvait-elle bien appartenir, cette foutue boîte ?
Serenac continue d'anticiper les lacets étroits. Les moutons blasés sur les pelouses du coteau tournent à peine la tête au passage des véhicules hurlants.
Morval était collectionneur, fait Serenac. Il aimait les beaux objets. Personne ne l'avait jamais vu avec cette boîte de peinture. Patricia Morval, sa veuve est formelle. Sans oublier que le lien avec le crime n'est pas établi. Cette boîte de peinture a pu être balancée dans la rivière par n'importe qui, même plusieurs jours après le meurtre de Morval.
On a retrouvé du sang sur la boîte.
C'est trop tôt, patron. On n'a aucun retour d'analyse. Aucune certitude qu'il s'agisse du sang de Morval. Excusez-moi, mais je crois que vous allez trop vite.
Comme pour lui répondre, l'inspecteur Serenac coupe enfin la sirène et se gare au frein à main sur un petit parking de terre.
Écoute, Silvio, j'ai un mobile. J'ai une menace envers la victime écrite de la main de Dupin, lequel n'a pas d'alibi, mais nous sert au contraire une histoire grotesque de bottes volées. Je fonce. Quand les pièces de ton puzzle s'emboîteront autrement, tes putains de 3 colonnes, tu me feras signe. Et puis, à charge contre Dupin, il y a, même si je sais que tu n'es pas d'accord, mon intime conviction.
Serenac sort du véhicule sans attendre de réponse. Lorsque Silvio pose à son tour le pied hors de la voiture, il sent le sol tourner autour de lui. Il se dit que décidément le café, comme les excès en général, ne lui réussit pas et qu'il irait bien se vider derrière les sapins au bout du parking. Sauf que ce ne serait pas très discret. 3 camions de gendarmerie sont garés à chaque extrémité du dit parking et 10 dizaines de flics en sortent en s'étirant. Dans l'instant qui suit, Louvel et Maury se croient eux aussi obligés de bloquer leur roue avant et de déraper sur le gravier.
Les cons. Il a déployé les grands moyens, le patron.
Au bas mot, 15 d'hommes, une bonne partie du commissariat de Vernon, plus les gendarmeries de Passy-sur-Eure et d'Écho. Il a mis les petits plats dans les grands, pense Silvio en mâchant le chewing-gum à la chlorophylle que Louvel vient de lui offrir.
Et fait preuve d'un goût de la mise en scène peut-être un peu superflu.
Tout ça pour un seul homme.
Certes, sans doute armé. Mais dont on n'est même pas sûr qu'il soit coupable.
Le lapin roux détale en zigzag désespéré sur la pelouse calcicole, comme si quelqu'un lui avait appris que les longs tubes d'acier que portent les 3 ombres devant lui étaient capables de lui ôter la vie en un éclair blanc.
« Il est pour toi, celui-là, Jacques !»
Jacques Dupin ne lève même pas son arme. Titou l'observe, étonné, puis braque son fusil. Trop tard. Le garenne a disparu entre 2 genévriers. À chacun sa magie.
Il n'y a plus devant eux que l'herbe nue broutée par les troupeaux de moutons récemment réintroduits. Ils continuent de descendre vers Giverny par le sentier de l'Astragale.
« Putain, Jacques, t'es pas en forme ?» glisse Patrick. « Même un mouton, je crois que tu le raterais. »
Titou, le troisième chasseur, hoche la tête pour confirmer. Titou est plutôt un bon tireur. Le Garenne, s'il ne l'avait pas laissé à Jacques, il n'aurait pas fait 2 mètres avec lui. « Fine gâchette », comme lui disent souvent les potes. Parce que pour le reste, question finesse.
« C'est à cause de l'enquête sur l'assassinat de Morval, hein ?»
commande-t-il en se tournant vers Jacques Dupin.
« T'as peur que le flic te mette au trou rien que pour te piquer, Stéphanie ?»
Titou éclate de rire tout seul. Jacques Dupin le dévisage avec un énervement contenu. Patrick soupire. Titou insiste.
« Faut dire, t'as pas de chance avec Stéphanie. Juste après Morval, voilà que c'est un flic qui lui court après. »
Le gravier du sentier de l'Astragale dévale sous leurs pas. Derrière, sur la pelouse du coteau, pointent 2 oreilles blancs et noires. Titou, quand il commence.
« Faut dire que si t'étais pas mon pote, moi,
c'était... » La voix de Patrick claque dans le silence.
« Ta gueule, Titou !»
Titou laisse mourir la fin de sa phrase dans sa moustache. Il continue de descendre dans le sentier, dérapant plus que marchant. Titou semble ruminer dans sa tête, puis explose de rire avant même de parler.
« Au fait, Jacques, elles te font pas mal aux pieds, mes bottes !»
Titou ne s'en remet pas. Il rit aux éclats, les larmes aux yeux. Patrick le regarde avec incrédulité. Jacques Dupin n'a pas l'ombre d'une réaction. Titou s'essuie les paupières avec sa manche.
« Je déconne, les gars. Tu te doutes, Jacques, je déconne. Je sais bien que tu l'as pas buté, Morval. Putain, Titou, arrête de... »
Cette fois-ci, c'est la fin de la phrase de Patrick qui se perd au fond de sa gorge. Devant eux, le parking où ils ont laissé leur fourgonnette s'est transformé façon Fort Alamo. Ils comptent 6 bagnoles à gyrophares et près d'une 20aine de flics. Policiers et gendarmes leur font face, positionnés en demi-cercle, la main sur la hanche, les doigts sur l'étui de cuir blanc de leur revolver. L'inspecteur Sérénac se tient 1 mètre devant les chasseurs. Instinctivement, Patrick effectue 1 pas sur le côté. Sa main se referme autour du tube froid du canon du fusil de Jacques Dupin.
« Doucement, Jacques, doucement. »
L'inspecteur Sérénac s'avance.
« Jacques Dupin, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Jérôme Morval. Veuillez nous suivre sans résistance. »
Titou se mord les lèvres, jette son fusil à terre et lève 2 mains tremblantes, comme il a vu faire dans les films.
« Doucement, Jacques, » continue Patrick. « Va pas faire le con. »
Patrick connaît bien son pote. Des années qu'ils sortent, qu'ils marchent, qu'ils chassent ensemble. Il n'aime pas, pas du tout, ce visage de marbre, cette absence d'expression, presque comme s'il ne respirait plus. Sérénac s'avance encore, seul, désarmé. 2 mètres.
« Non !»
crie Silvio Benavides. L'inspecteur coupe le demi-cercle de flics et se poste presque à côté de Sérénac. C'est peut-être symbolique, mais Benavides a l'impression de casser ainsi une sorte de symétrie. Comme s'il espérait perturber la mécanique implacable d'un duel de western en traversant la rue au mauvais moment. Jacques Dupin pose sa main sur le poignet de Patrick. Sans un mot, Patrick a compris. Il n'a pas d'autre choix que de lâcher le canon d'acier. Il espère ne pas le regretter, toute sa vie. Il voit avec effroi la main de Jacques se crisper sur la détente, le canon du fusil se lever doucement. En temps normal, Jacques vise mieux encore que Titou.
« Arrêtez, Lorenz !»
murmure Silvio, blême.
« Jacques, fais pas le con !»
chuchote Patrick. Sérénac avance, 1 pas de plus. Moins de 10 mètres le séparent de Jacques Dupin. L'inspecteur lève lentement la main, fixe droit dans les yeux le suspect. Silvio Benavides regarde avec effroi, un sourire de défi s'accrocher au coin des lèvres de son patron.
« Jacques Dupin, vous... »
Le canon du fusil de Jacques Dupin est maintenant braqué sur Sérénac. Un impressionnant silence a envahi le sentier de l'Astragale. Kitou, Patrick, les agents Louvel et Maury, l'inspecteur Silvio Benavides, les 15 flics, même les moins malins, même les moins habiles à deviner ce qui peut se dissimuler derrière un cerveau, tous lisent la même chose dans le regard froid de Jacques Dupin. La haine.